Il y a un bon sentiment, assez étonnant, hein. On passe d'un jour à l'autre et tout à coup c'est une nouvelle année. Alors finalement, il n'y a pas grand-chose qui change, mais le fait que ça soit une nouvelle année, pour moi, c'est comme s'il y avait, voilà, c'est un nouveau commencement et quelque chose de frais, et ça fait du bien. Souvent, on est reposé, on a eu des vacances. Bon, c'est pour ceux qui n'ont pas d'enfants en bas âge et qui ne sont pas tombés malades, hein, comme nous. Mais voilà, c'est un nouveau départ. Et le nouveau départ, c'est quelque chose qui est très biblique. En Dieu, on peut constamment avoir des nouveaux départs. Hein. Il est celui qui fait grâce encore et encore. Et il y a vraiment cette notion-là, quand on commence une nouvelle année, on a une occasion de mieux faire peut-être, ou en tout cas de repartir fraîchement dans cette nouvelle année, puis de se dire, OK, qu'est-ce que Dieu a pour nous cette année? Souvent, on prend des bonnes résolutions. Je ne sais pas si vous en avez prise, moi je tends à plus trop en prendre. Parfois on arrête d'en prendre parce que finalement on se rend compte que ça ne tient pas très longtemps. Hein, on prend des bonnes résolutions et puis quand on arrive à la fin de l'année, on se rend compte que ben, on ne les a pas mises en pratique. Et j'ai lu un texte qui parlait de pourquoi est-ce que souvent ces bonnes résolutions ne sont pas mises en pratique. Et j'aimerais partager ça avec vous. Parfois c'est un manque de motivation. Hein, on prend des bonnes résolutions parce que c'est dans l'air du temps et tout le monde fait ça. Alors on se dit, allez, on prend une bonne résolution, mais finalement on n'est pas vraiment prêt à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Une autre chose, c'est qu'on fait ça tout seul. On n'est pas redevable. Une bonne chose à faire, si on veut changer quelque chose dans notre vie, c'est d'en parler à quelqu'un et puis que cette personne puisse venir vers nous pour nous dire, alors, est-ce que tu as changé ça dans ta vie? Est-ce que tu as mis en pratique ce que tu disais que tu voulais faire? Là, on se dit, ben oui, j'ai fait un petit bout, ou non, pas du tout. Pourquoi? Et puis on peut avancer comme ça. Très important d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'on veut changer dans nos vies pour qu'il puisse ensuite nous tenir redevables. Parfois, on prend aussi trop de résolutions d'un coup. On essaie de tout changer, et ça ne marche pas. Hein, si on a 10 bonnes résolutions, ça ne va jamais tenir. Par contre, on en avoir une bonne, ça peut marcher. Donc faisons des choix. Une bonne résolution que j'aimerais vous proposer pour cette année, c'est la devise de Jeunesse en Mission. Je ne sais pas si vous la connaissez. Peut-être que quand je vous la dirai, vous direz, ah oui, j'ai déjà entendu ça. Connaître Dieu et le faire connaître. Moi, je trouve ça grandiose. Pas juste parce que je suis à Jeunesse en Mission, mais je trouve que c'est voilà, une devise qui est très inspirée. Qui résume tellement de choses et qui est tellement fondamental pour nos vies. Connaître Dieu, hein, c'est la base. On doit apprendre à le connaître. Chaque jour, chaque année, on ne peut pas s'épuiser, on ne peut pas arriver au bout de la connaissance de Dieu. Donc il y a toujours des choses à apprendre. Et puis le faire connaître, de cette connaissance qu'on a eue, dans notre temps personnel avec lui, de notre expérience avec lui, on peut le faire connaître autour de nous. Alors voilà, que cette année, on puisse apprendre à le connaître. Passer du temps avec lui, c'est important. Et puis le faire connaître là où il nous a placés, dans nos familles, dans notre travail et dans nos quartiers. Et puis maintenant, je vais inviter le groupe de louanges à venir sur scène. Passer une bonne année, une nouvelle année, c'est aussi se souvenir de tout ce que Dieu a fait dans l'année précédente. Et je crois qu'on a tous plein de sujets de reconnaissance, de louanges. On sait aussi par la foi qu'il y aura des bonnes choses pour nous cette année. On peut se réjouir et on peut louer pour ça aussi.
Merci, bonjour. Et connaître Dieu et le faire connaître, c'est aussi un peu le thème de la louange que j'ai prévue ce matin. Proclamer Jésus et confesser son nom. Donc c'est un peu dans la même lignée de ce qui vient d'être dit. Effectivement, d'abord le proclamer, c'est, on va commencer dans un premier temps la louange à proclamer. Puis dans un deuxième temps, confesser son nom, dire que nous croyons en Jésus, confesser que nous croyons en ce Dieu trois fois saint. Parce que c'est vrai qu'on a reçu, en tout cas personnellement, pas mal de vœux avant les fêtes, avant Noël. Et puis tous les vœux que j'ai reçus de mes fournisseurs, des connaissances de travail, c'était, on vous souhaite des bons vœux, on vous souhaite... des belles fêtes illuminées, de bonheur, de grâce, de joie, de santé pour 2017. Et de moins en moins de joyeux Noël, voire pas du tout de la part de mes fournisseurs. Et ça m'a fait prendre conscience que je pense qu'il faut qu'on disent plus clairement aussi que quelle est notre espérance, et puis qu'on ose dire joyeux Noël d'abord, mais qu'on ose dire aussi la raison de notre foi au quotidien. Alors voilà, c'est un peu dans cette ligne que j'aimerais vous entraîner dans la louange ce matin. Alors d'abord, proclamons Jésus. Celui qui a changé ma vie, c'est Jésus. Aujourd'hui, et notre avenir est entre ses mains. C'est les paroles de ce chant. Je lis dans Luc, au chapitre 12, les versets 31 et 34. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez tout ce que vous possédez et distribuez le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre,
ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Et Jésus est le trésor de nos vies. Il nous promet son royaume. Alors ayons la foi dans ses promesses, dans ses paroles. Soyons persuadés que Jésus nous aime, qu'il est le Sauveur. Et puis disons ensemble, proclamons ensemble notre foi. Confessons devant les hommes que Jésus-Christ est Seigneur. Et puis, dans le chant qu'on va prendre, il y a ce deuxième couplet qui dit « Dieu transforme les nations par l'intercession, il répond à la foi des enfants ».
Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons.
vous invite à dire quelques prières. Seigneur, tu nous as accordé la grâce de croire en toi. Seigneur, tu es notre espérance. Tu es le chemin, la vérité, la vie. Aide-nous, Seigneur, à dire explicitement que tu es au centre de nos préoccupations. Aide-nous à proclamer que tu es le Dieu de nos cœurs. Amen. Seigneur, tu nous as fait cette promesse de nous accorder ta grâce, la grâce de croire en toi. Et aussi, tu ne nous dis pas que tout sera facile, qu'il y aura aussi des difficultés, mais tu nous envoies ton esprit, Seigneur, et nous te remercions parce que ton esprit veut souffler sur nos cœurs pour être le témoin en nous de toi. Merci pour cet esprit, Seigneur.
Merci. Je vais lire dans 1 roi 10, au verset 1 à 13, et puis verset 23 à 25. Et on laisse partir les enfants. Très bonne idée. Oui. Bon culte, les enfants. Soyez bénis. Seigneur, on prie que tu bénisses ces enfants, que tu bénisses ceux qui prennent soin d'eux, qui vont les enseigner. Seigneur, tu aimes les enfants. Tu connais le potentiel que tu as mis en eux, Seigneur. Tu connais aussi les défis qui sont les leurs. Seigneur, je te prie qu'ils puissent entendre ta voix, que tu puisses leur parler, qu'ils puissent être enseignés déjà dans leur jeune âge, que tu puisses mettre des fondations qui les rendront solides pour tenir bon. Dans ce monde, Seigneur. Amen. 1 roi 10. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon à la gloire de l'Éternel et vint l'éprouver par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très importante, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle vint auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon lui expliqua tout ce qu'elle demandait, et il n'y avait rien de caché pour le roi qu'il ne pouvait lui expliquer. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, les mets de sa table, l'habitation de ses serviteurs, les fonctions et les vêtements de ceux qui étaient à son service, ses échansons et les holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en perdit le souffle et dit au roi: c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de tes paroles et de ta sagesse. Je ne croyais pas à ces paroles avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici qu'on ne m'en a pas annoncé la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que ta réputation ne me l'avait laissé entendre. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui se tiennent continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Béni soit l'Éternel ton Dieu, qui a été favorable et qui t'a placé sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime Israël à toujours qu'il t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Elle donna au roi 120 talents d'or et une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. il n'arriva plus autant d'aromates que celles que de la reine de Saba donna au roi Salomon. Les navires de Hiram, qui apportèrent de l'or d'Ophir, amenèrent aussi d'Ophir une grande quantité de bois de santal et des bières précieuses. Le roi fit avec le bois de santal une balustrade pour la maison de l'Éternel et pour la maison du roi, ainsi que des harpes et des luttes pour les chantres. Il n'arriva plus de pareil bois de santal, et l'on n'en a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Le roi Salomon donna à la reine de Saba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et il lui fit en outre des présents dignes d'un roi tel que Salomon. Puis elle s'en retourna pour aller dans son pays, elle et ses serviteurs. Puis ensuite au verset 23 à 25, « Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et par la sagesse. Tout le monde cherchait à rencontrer Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son offrande, des objets d'argent et des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. » Seigneur, merci pour ta parole, merci pour Roger qui s'est préparé à partager ce que tu as mis sur son cœur. Merci de continuer à le conduire alors qu'il partage avec nous. Merci aussi de préparer nos cœurs, qu'on soit attentif à ce que tu veux nous dire chacun. Seigneur, qu'on puisse continuer à apprendre de toi, comme on l'a dit au début du culte, et à grandir dans la connaissance de qui tu es et de ce que tu veux pour nous. Amen.
Qu'est-ce que ce texte aurait à nous dire aujourd'hui? Il y a trois mots que j'aimerais retenir pour qu'on puisse entrer dans ce texte: attraction, explication, bénédiction. Attraction. Si vous êtes d'accord, j'aimerais vous inviter à venir et voir avec toute cette foule qui venait voir la richesse du roi Salomon. Donc, je vous propose une sorte de tour guidé, une visite guidée. Nous remontons le temps à environ presque 1000 ans avant Jésus-Christ, et nous sommes donc à Jérusalem. Le grand roi David est décédé depuis en tout cas une vingtaine d'années, et maintenant c'est un de ses fils, Salomon, qui l'a succédé. Alors, la reine de Saba a entendu parler, et puis elle va faire le voyage, on pense qu'elle vient du Yémen, et puis, semble-t-il que c'est dans les 1600 kilomètres qu'elle va faire à dos de chameau. Alors, 1600 kilomètres, peut-être c'est ici jusqu'à Moscou, je ne sais pas. En tout cas, c'est un bon bout. Et c'était, les bruits ont couru à une époque où le réseau était quand même encore très limité. Et nous voilà donc à notre tour pour visiter. Nous devons attendre à l'entrée du palais, et puis il y a le débat télévisé qui tourne en boucle. Salomon qui a su répondre à toutes les questions qui lui étaient posées sur la nature, les plantes, les animaux, tout il a su répondre. Et puis maintenant, on commence à admirer le palais, fondement des pierres taillées de 4 à 5 mètres chacune. Et puis ça a pris, on nous apprend, 13 années pour bâtir cet édifice. Tous les détails sont donnés, tout le bois, c'est du bois de cèdre. Et surprise, voilà, en cours de notre visite, nous sommes invités au repas. Le repas, le menu, c'est aussi dit dans le manuel. Chaque jour, il y avait en préparation 10 bœufs engraissés, 20 bœufs de pâturage et 100 moutons, sans compter les cerfs, les gazelles, les chevreuils et les volailles engraissées. Donc, il y a de quoi pour nous nourrir tous. On ne va pas partir en ayant faim. Comme a dit la reine de Saba, c'était à couper, non pas l'appétit, mais le souffle. Et justement, parce que la reine de Saba est là, on va avoir un tour guidé un peu plus complet, ce qu'on n'a pas lu dans le manuel. On peut aller donc dans le palais qui s'appelle Forêt du Liban, parce qu'il y a tellement de colonnes de cèdres que c'est comme une forêt. Mais on veut nous faire visiter les boucliers. Il y en a 200, chacun taille d'homme. Ça pèse, chaque bouclier, 6 kilos d'or. Il y en a 200. Et puis, il y en a 300 qu'on porte à la main. Et ceux-là n'ont qu'un kilo et demi d'or. Et puis, ne manquez pas, dit notre guide, la salle du trône fait d'ivoire, plaqué d'or naturellement, 6 marches pour monter, 2 lions sur chaque marche. Il n'y a pas eu de pareil dans aucun royaume, ni avant ni après. Pour les dames, si vous permettez, direction cuisine. On va aller admirer la vaisselle. Tout, on nous explique, rien en argent, tout est en or. On a juste le temps de jeter un coup d'œil dans le jardin zoologique. Les rois assyriens aimaient beaucoup les animaux, mais là, c'est encore tout autre chose chez Salomon. On n'a pas le temps de descendre à Eilat pour voir la flotte des navires au long cours, mais on nous permet de jeter un coup d'œil dans le garage. Il y a le Rolls des chariots. 600 pièces d'argent chacun, importées d'Égypte, et il y en a dans le garage, ça doit être grand, 1400 chariots. Non pas pour la guerre, très probablement, mais pour les cérémonies royales. Conclusion, je reprends les paroles de la reine du Saba à la fin de son tour guidé. Je ne croyais pas ce qu'on disait avant d'être venu ici et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici, on ne m'avait pas raconté la moitié. Alors, notre guide était enthousiaste, mais pourquoi raconter tout cela? Quelle est l'explication? Parce que l'attraction, je me rappelle quand c'était le jubilé de la reine Élisabeth, les républicains, ceux qui n'aiment pas trop la royauté, ils ont dit un peu moqueur, « Oh, mais c'est bien qu'on fête le jubilé parce que ça transforme le Royaume-Uni dans une sorte de géant parc d'attractions. » Mais ici, est-ce que c'est une sorte de géant parc d'attractions? Non. Merci. Mais quelle est la raison d'être de tout cet éclat? Est-ce que c'est parce que Salomon avait un bon fournisseur dans le roi Hiram qui envoyait le cèdre et puis fournissait les bateaux nécessaires pour aller à Ophir et ailleurs? Ou est-ce que simplement c'était le standard pour les monarques de l'époque, style Nebuchadnezzar quelques siècles plus tard, qui en observant Babylone, n'est-ce pas ici Babylone le grand que j'ai construit de ma propre force et à ma propre gloire? Ou est-ce que nous sommes invités à voir d'une manière imagée un petit aperçu d'un autre royaume, un royaume à venir, un royaume qui est promis, le royaume, comme on dit, messianique, ou le paradis qui nous attend. Donc, on retourne au manuel parce que ça mérite quelques explications. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que ça veut dire, le paradis? Semble-t-il que ça vient d'un mot perse qui voulait dire un parc entouré d'une muraille ou un jardin, je cite, comprenant une grande variété de plantes exquises et d'animaux. Et c'était le symbole le plus fort pour l'homme parce que ça combinait à la fois la beauté de la nature avec l'ordre que l'homme est appelé à y mettre. Le paradis. Mais au juste, à quoi est-ce qu'il faut s'y attendre quand on parle du paradis? Donc, ce n'est pas la nature sauvage, c'est encore moins flotter sur un nuage à s'ennuyer à mort. C'est la nature soignée, la malédiction neutralisée, la création renouvelée. Et à l'époque, quand Jésus était sur terre, dans le judaïsme, on concevait le lieu du paradis retrouvé, sans exception, comme étant sur terre, pas quelque part là-haut, où les justes ressuscités maintenant vivraient dans un lieu physique, dans des corps physiques. C'est votre attente du paradis? Est-ce que c'est là notre espérance? Un monde à venir, tout nouveau, oui, mais toujours un monde. Pas un lieu qui nous est totalement étrange ou étranger. Un monde, comme a dit un théologien, qu'on va reconnaître, un monde guéri. Si on lit l'article de Claude Becher dans « Vivre il y a quelques années de ça ». L'homme rétablit son image maintenant pleinement reconstituée, le dessein parfait de Dieu réalisé. Santé. Voilà quelques explications, mais revenons à notre texte. Attraction, explication, mais surtout bénédiction. Voilà le but de notre texte. Ce n'est pas une invitation qu'à notre tour on aspire après la richesse. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que l'évangile de la prospérité finalement dit vrai. Le but, c'est que la reine de Saba et tout autre visiteur, ils venaient en foule, on l'a lu, d'un peu partout dans le monde d'ailleurs, que chacun soit attiré, non pas par les dons, mais attiré vers celui qui a tout donné. Regardons à nouveau ce que dit le texte. C'est souligné dès le début. La reine de Saba entendit parler de la réputation que Salomon avait acquise grâce à l'Éternel ou à la gloire de l'Éternel, selon les versions. Elle vint donc. C'est grâce à l'Éternel que Salomon est béni. C'est grâce à l'Éternel qu'il a cette sagesse et les richesses en prime, mais elles sont là à cause tout simplement d'une promesse de Dieu. Si on avait lu un peu quelques pages avant, on se souviendrait que Salomon, quand il était nommé roi, il s'est trouvé incapable de régner de lui-même. Il a adressé une prière à Dieu, mais « Donne-moi l'intelligence pour pouvoir bien régner avec justice sur ce peuple. » Et la réponse de Dieu était, c'est chapitre 3, tu demandes l'intelligence pour régner, alors moi je te donnerai de la sagesse plus que toute autre personne qui a jamais régné sur la terre, et en plus, parce que tu ne l'as pas demandé, je te bénirai avec des richesses comme nul autre roi. Dieu l'a promis. Ça nous rappelle d'ailleurs que dans le Nouveau Testament, Dieu nous promet de nous donner la sagesse si nous le lui demandons. L'auteur veut souligner que ce Dieu unique fait des promesses et sait les garder. En deuxième temps, toujours sous bénédiction, la raison profonde de toutes ces bénédictions est donnée noir sur blanc au verset 9. C'est à cause de son amour éternel pour Israël que l'Éternel t'est établi roi pour que tu gouvernes avec justice et équité. Dieu aime passionnément le peuple qui se confie en lui. Il avait promis un descendant à David qui aura un règne glorieux, éternel même, et il ne peut pas s'empêcher d'entrouvrir la porte ici pour qu'on ait un petit aperçu de ce qui est en préparation pour ses enfants. C'est vrai que les enfants laissent entendre ce qui va venir par la suite. Je me rappelle que notre aîné Lydie, tout petit enfant, faisait semblant de jouer au violon avec deux tringles de rideau. Ce n'était pas encore ce qui allait venir, mais c'était une petite indication. Et c'est ce que nous avons ici dans notre passage. Un petit aperçu de ce qui est en préparation. Et en troisième lieu, Salomon avait demandé ce qui lui manquait, la sagesse, pour la tâche qu'il devait assumer, je l'ai dit. Ce Dieu accorde ses dons avec largesse. Écoutez le verset 24. Tous les gens de la terre cherchaient à le rencontrer pour se mettre à l'écoute de la sagesse que Dieu lui avait donnée. Ce n'est pas que c'était quelqu'un qui était simplement un peu intelligent. Il a reçu de Dieu cette sagesse qui lui manquait. Dieu est généreux. Bien sûr, si on a lu la fin de l'histoire, nous n'oublions pas que Salomon, par la suite, va se laisser distraire et tomber dans l'asservissement. C'est la limite de l'image à la mesure de notre faiblesse humaine. Mais pour le moment, en ce début d'année, on l'avait entendu, on aime parler de nouveau départ. Arrêtons-nous sur tout ce qui est là pour nous émerveiller, comme annonce des choses à venir. Il a l'harmonie, l'ordre. La Bible parle de shalom, ce qui est annoncé. Il n'y aura plus de stress, plus de conflits. Nous désirons considérer l'héritage qui nous est réservé, prêt à être révélé à la fin des temps. Il y a la gloire à venir dont nous avons ici un tout petit avant-goût. Et l'Apocalypse va dire que le Seigneur a fait de nous des rois et des prêtres, et que nous régnerons avec lui. Comme moi, je me suis assis sur le trône de mon Père, a dit Jésus, vous assiérez avec moi sur mon trône, et ils régneront éternellement. C'est la fin du message, quand on retrouve le jardin paradis à la fin de l'Apocalypse. Mais je dois conclure. Nous venons de faire un tour guidé de Jérusalem avec la reine de Saba. Est-ce que vous vous souvenez que nous avons une autre rencontre agendée avec la reine de Saba? Si, si. C'est Jésus qui va le dire. La reine de Saba se lèvera et va dire aux gens qui sont là, il y a des gens qui confrontent Jésus et disent, mais nous voulons voir un signe miraculeux. Jésus répond, ah, c'est les gens mauvais de cette génération qui recherchent des signes miraculeux. Il n'y aura pas de données, sauf le signe de Jonas, c'est-à-dire il va descendre 3 jours et puis remonter, ressusciter. Mais puis Jésus ajoute, la reine de Saba se lèvera au jour du jugement pour condamner cette génération parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir Salomon et il y a ici plus grand que Salomon. Voilà la rencontre qui est agendée. C'est donc lors de la résurrection et le jugement dernier, juste avant la découverte, notre espérance de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Elle a entendu parler, elle est venue, elle s'est laissée attirer au Dieu d'Israël. C'est le vient et voit de la mission, l'attractivité du peuple de Dieu, comme beaucoup ont exprimé dans leur prière. Par contre, devant Jésus, le plus grand que Salomon, beaucoup sont restés simplement à la maison, indifférents ou pires. C'est vrai que ses richesses étaient moins tape à l'œil, parce que de riche il était, il s'est fait pauvre, afin de par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Mais sa sagesse, il n'y avait rien de comparable qui n'ait jamais entendu. Son statut, pas simplement le roi d'une localité, mais le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ces gens-là de l'époque de Jésus seront condamnés par la reine de Saba parce qu'eux, ils avaient une révélation de Dieu encore tout autrement éclatant que tout cet or, etc. de Salomon. Et nous? Nous n'avons pas encore eu une face-à-face avec le fils, le plus grand fils de David, le Seigneur Jésus. On sait qu'il est maintenant glorifié, destiné à régner sur cette terre, comme toute la création, quand elle est restaurée, guérie. Comment faire pour ne pas rougir à notre tour quand la reine de Saba se lève avec nous? Quand nous étions à Laos, il y a 4 ans, 5 ans de ça maintenant, j'imagine. Le retour, c'était le vol Bangkok-Genève, escale à Francfort. Le but était Genève, c'est là où on était à la maison. L'escale était Francfort. Mais dans les réalités éternelles, nous sommes à Francfort. C'est l'escale, ce que nous vivons, parce que nous visons la maison, si vous me suivez. Ne vivons notre vie comme si nous vivions toujours à Francfort. L'escale, nous visons la maison. Et par la foi, nous adorons déjà sa majesté et nous vivons avec notre espérance en vue. Notre Dieu tient ses promesses. C'était bien vrai ce que j'avais entendu dire dans mon pays. On le dira aussi quand on le rencontre finalement. Je ne croyais pas ce qu'on disait avant d'être venu. J'espère qu'on croit quand même un peu. Et de l'avoir vu de mes propres yeux. Et voici, on ne m'avait pas raconté même la moitié. Dieu tient ses promesses. Il a un amour éternel pour ceux qui se confient en lui. Et déjà maintenant, il accorde ses dons avec largesse, en attendant le jour où nous régnerons avec lui, parfaitement comblés dans une création pleinement guérie. Alors c'est un peu faible de dire bonne année, mais que cette espérance puisse vraiment nous animer et nous garder fixés sur l'essentiel. Et que Dieu vous bénisse. Amen.
Merci Roger. Au début, j'ai parlé des bonnes résolutions qui finissent par tomber dans les oubliettes parce qu'on n'arrive pas à les mettre en pratique. Et une autre chose qui est difficile, c'est parfois de se souvenir de ce qu'on a entendu au culte le dimanche matin et de le mettre en pratique dans nos vies. Une raison pour cela, c'est qu'encore une fois, on ne partage pas ça avec ceux qui sont autour de nous. On ne parle pas de ce que Dieu nous a dit aux autres. Et puis, on a tendance à l'oublier plus facilement. Donc, je me demandais si ce matin, je pourrais avoir deux personnes qui partagent avec nous tous ce que vous avez entendu ce matin. Ça peut être une chose que vous avez peut-être apprise de ce texte, quelque chose que Dieu vous a dit, quelque chose que vous allez mettre en pratique. Moi, je vous dirai une chose tout à l'heure aussi. Juste deux personnes, ça demande un petit peu de courage. Tu peux aussi venir ici. Oui, parce... Si vous avez une bonne voix, vous pouvez juste le faire depuis où vous êtes. Ouais.
Une chose qui me parle, c'est une des dernières choses que Roger a dit, même si je me rappelle pas mal de choses, mais c'est que nous sommes ici de passage à Francfort. Et ça, c'est merveilleux parce qu'une escale, même si elle est un jour ou une année, c'est une escale. Mais ce qui m'attend, c'est merveilleux. Et puis, c'est une escale. Alors ça, ça réjouit mon cœur.
Non seulement Clémentine ne va pas oublier cette leçon, mais vous non plus, vous n'allez pas l'oublier. Encore une. Oui. Voilà. Donc à la fin du texte, il y a plus grand que Salomon, c'est Jésus et Jésus habite en nous. Amen. Merci. Voilà, moi ce qui m'a... j'avais jamais fait en fait le lien entre ce passage et puis un autre passage du Nouveau Testament où il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus ». J'ai réalisé que c'est un peu ce que Salomon a vécu finalement. Hein. Dieu, voilà, lui a posé la question « Qu'est-ce que tu veux ?» et Salomon n'a pas cherché à s'enrichir lui-même, il a cherché d'abord le royaume de Dieu. Il a cherché à régner avec justice, il a cherché à être un bon roi. Et c'était vraiment ce que Dieu avait sur son cœur, c'était son royaume. Et Dieu lui a donné ça, et en plus, il lui a donné tout le reste. Donc pour moi, c'est un bon exemple de ce passage qu'on retrouve dans le Nouveau Testament et qui concerne tous. Voilà, une autre chose peut-être un peu plus du côté de la rigolade, mais je pense qu'il y a encore du travail à faire entre l'égalité et les hommes et les femmes dans la cuisine. Hein? Mais je veux proclamer que 2017 sera l'année où les hommes seront toujours plus dans la cuisine aussi. Voilà, ça m'a fait rigoler. Bon, très bien. C'est une nouvelle année, on l'a dit, et un des plus grands changements qu'il y a eu dans l'histoire de l'humanité, un des plus grands nouveaux départs, ça a été la mort de Jésus, sa résurrection, ce qui nous donne l'occasion à nous de repartir fraîchement, d'être nés de nouveau. Et puis c'est de cela qu'on veut se souvenir maintenant, c'est cela qu'on veut célébrer en prenant ce repas de la Sainte Cène. Si je peux demander à 4 volontaires au deuxième rang de cette rangée de venir m'assister. Vous vous débrouillez qui vient, mais... Et puis je vais lire un passage pendant que vous venez vers moi. Je ne vous demanderai pas de prier, de parler, ne vous inquiétez pas. Pas mal, merci. Voilà, et puis pendant que je lis le texte, peut-être qu'il y en a une d'entre vous qui peut juste rompre le pain, et puis ensuite on fera la distribution. Ça va ? Alors, je vais lire dans Matthieu 26, 26 à 28. Donc Jésus est avec ses disciples, et puis pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et avoir dit la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés ». Donc voilà, aujourd'hui, on refait symboliquement ce que Jésus a fait avec ses disciples pour se souvenir de ce qu'il a accompli pour nous. Alors je vais prier et puis ensuite on pourra faire la distribution. Merci Seigneur, merci pour ce que tu as accompli sur la croix. Merci parce que tu es venu te donner pour nous. Merci parce que tu nous as donné l'occasion de pouvoir repartir à zéro, de naître de nouveau. Et c'est quelque chose qu'on peut refaire chaque jour si besoin. Tu nous acceptes encore et encore, tu nous fais grâce encore et encore. Et c'est de cela qu'on veut se souvenir ce matin en prenant ce repas ensemble. Alors, merci. Gloire à toi et béni sois-tu. Amen. Donc voilà, dans les plateaux, il y a des petits gobelets transparents et des petits gobelets violets. Je ne me souviens jamais lesquels sont quoi. Les violets sont le jus de raisin, c'est juste ? Ok, voilà. Et puis du vin dans les petits gobelets transparents. Et ceux qui désirent boire dans la coupe peuvent aussi lever la main pour le demander. Puis sentez-vous libre de prier aussi, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur.
vie sur terre. Notre vie, quand nous parlons, ça ne nous arrête pas notre mort, mais que ça continue avec l'éternité. Et ça nous explique mieux quand tu dis que tu as vaincu à la croix la mort et toutes les maladies. Alors Seigneur, merci que nous devons plus nous arrêter à notre... tu as dit que tu as ôté l'aiguillon de la mort, que c'est seulement un passage. Et nous voulons vraiment croire à ça, Seigneur, que c'est un ensemble. Merci de tout cœur aussi de Béni Roger qui a eu et qui a confirmé cela. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons maintenant récolter une offrande. Si vous êtes invité de passage, sentez-vous vraiment libre de donner ou pas pendant ce temps. Donner, c'est proclamer. Donner, c'est proclamer que Dieu est fidèle. Proclamer que je lui fais confiance. Je crois qu'on peut tous témoigner qu'il a été fidèle en 2016 et donc il le sera encore en 2017. Et quand on donne un peu de son argent, eh bien on proclame... On croit que Dieu est fidèle et qu'il va vraiment prendre soin de nous. On proclame que toutes choses lui appartiennent et nos finances aussi. Pendant qu'on récoltera l'offrande, il y aura un chant qui sera passé. Peut-être certains le connaissent, un chant en anglais qui s'appelle « Good, good Father ». Dieu est un bon père qui prend bien soin de nous. et qu'on puisse vraiment proclamer ça en donnant un peu de notre argent ce matin. Je ne sais pas si je peux demander peut-être à d'autres volontaires de venir m'aider pour la récolte. Alors j'ai 3 sachets, donc 3 volontaires s'il vous plaît. Et puis on peut sans autre lancer le chant. Seigneur, merci, c'est vrai, tu es un bon Père, tu prends bien soin de nous, tu nous aimes et on sait que tu vas pourvoir à tous nos besoins. On te prie de bénir cette collecte qui a été faite. On sait que tu pourvois à tous nos besoins individuellement, pour nos familles, mais aussi pour cette Église, Seigneur. Et on te fait confiance pour cette année qui est là devant nous. Amen, béni sois-tu. Voilà, j'appelle Roger pour quelques annonces et puis la bénédiction finale.
Les annonces, alors cette semaine, il y a la prière de l'Alliance évangélique universelle qui démarre dès jeudi ici pendant 5 jours, ça aura lieu. Si vous voulez savoir les lieux et les dates, vous prenez contact avec moi. Je ne sais pas s'il y a un papillon à ce sujet. Michel, tu as des annonces à nous communiquer.
Tu as peut-être encore. Non ? Ok. Pardon.
Oui, j'ai excusez-moi. Je me calme. D'accord. On a beaucoup parlé d'or aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez remarqué la quantité d'or qui a circulé dans cette pièce. C'était énorme. Dans ma Bible, il y avait des notes. C'était des centaines de kilos d'or qui sont passés. Ben aujourd'hui, maintenant, on va juste parler d'argent pour vous dire que on a réussi à boucler le... On a réussi à boucler le budget le 31 décembre avec les trois derniers jours. On a fait par vos dons, par vos offrandes occultes, mais aussi par les dons que vous avez faits au travers du CCP. On a réussi à remplir l'objectif que nous nous étions fixés au colloque du mois de mars de l'année 2016. Donc c'est magnifique et c'est un beau signe de l'engagement de notre Église. Et je vous rappelle que notre Église, elle ne vit, elle n'assure ses charges, ses salaires, l'entretien du bâtiment, qu'au travers des dons et des offrandes que nous faisons ensemble, ici au culte, mais aussi au travers du compte bancaire. Voilà.
Avant de vous inviter à vous lever pour la bénédiction, il y a André. Est-ce que tu viens là, s'il te plaît, comme ça on entend bien. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Mardi à 2h30, voilà, et Aurélie a une annonce, il faudrait venir ici, Aurélie. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, Aurélie.
Juste vous, dire qu'on est bien rentré du camp de ski, merci beaucoup à tous ceux qui ont donné des denrées, on a très bien mangé. Et ouais, c'était vraiment un super camp. On va faire un retour le 22 janvier.
Donc, au culte, au 15 jours, on saura tout sur le camp de ski de nos jeunes. Je lis « Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans son grand amour, il nous a fait naître à une vie nouvelle, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour nous donner une espérance vivante. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se salir, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour nous dans les cieux. Vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Je vous invite à vous lever. Seigneur, nous te louons pour toute ta grâce envers nous. Si tu t'es fait pauvre, tu nous as enrichis d'une manière qu'on n'aurait jamais pu penser ni imaginer. Que cette espérance puisse nous animer puissamment pour nous aider à vivre d'une manière qui t'est agréable à la gloire de ton nom. Amen. Bon dimanche et bonne reprise dans cette année.